Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, vous le voyez, l'évangile qu'on a entendu aujourd'hui est particulièrement rude. D'abord, la Genèse nous a rappelé la faute et le Seigneur est en pleine contradiction. Ça y est, on est de nouveau parti dans la méditation de son apostolat, de ce qu'il va faire. Et il semble que rien n'aille, puisque ni ses amis, ni sa famille, ni ses ennemis ne le laissent en paix et semblent être mécontents de son attitude. Alors voilà pourquoi j'ai pensé que la contemplation du Sacré-Cœur nous était importante en même temps que la contemplation de cet évangile pour vraiment le bien comprendre. Voyons d'abord, j'ai divisé en deux, c'est plus simple, d'abord les amis de Jésus et ensuite ses ennemis. Les amis de Jésus, il y en a deux sortes ici dans l'évangile. Le Seigneur n'a pas que des ennemis, heureusement. Eh bien, il y a ceux qui lui sont des amis d'abord naturels, c'est ses amis et sa famille. Et ici, on parle de sa mère. Au début, on dit que sa famille le cherche, sans préciser, et à la fin, il s'agit de sa mère et de ses frères. Souvent, d'ailleurs, dans l'Évangile, comme on précise sa mère et on ne parle pas de son père, on pense communément, même sans en avoir une preuve formelle, que Joseph est déjà mort au moment où le Seigneur commence son apostolat, c'est-à-dire à l'âge de 30 ans. Ici, la mention de ses frères, qui est assez commune dans l'Évangile, où on parle de ses frères et de ses sœurs, je le précise, mais ce n'est pas le plus intéressant, mais comme vous l'entendrez dire de temps en temps, « Alors le Seigneur a eu des frères !» Alors je vous le dis tout net, si le Seigneur avait eu des frères, l'Évangile nous l'aurait dit, hein, parce que ce n'est pas un péché. Ça aurait eu une autre disposition divine, mais si le Seigneur avait eu des propres frères, il en aurait eu. Ici, nous savons qui sont ses frères, hein. Nous le savons très bien. Il y a notamment l'apôtre, le mineur, celui qui est son cousin, qui est en fait le fils de Marie, la cousine de la Vierge Marie. Et donc voilà, donc il n'y a pas de mystère, c'est l'Orient. Et pour qui est allé en Orient, ou même en Afrique d'ailleurs, eh bien on sait que quand on vous présente des frères et des sœurs, c'est ce qu'ici, nous, en Occident, on appelle des cousins. Voilà. Parce que quand c'est votre vrai frère, c'est-à-dire le fils de votre mère et de votre père, on dit « voici mon propre frère ». Voilà la différence qui se présente. C'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que il s'inquiète et également ses disciples semblent s'inquiéter. Ses disciples, c'est une autre communauté d'amis, c'est ceux qui le suivent, c'est un maître en Israël. Alors, certains ont commencé à quitter famille, travail, et suivent le Seigneur. Se rendent compte qu'il y a chez lui plus qu'un grand rabbin, qu'il y a chez lui quelque chose qui vaut la peine de tout quitter, qui vaut la peine de le suivre. Le Seigneur est donc, va rassembler à la fois et sa famille et ses amis dans une même famille, en fait. C'est l'enseignement qu'on a à la fin de l'Évangile. Qui sont ma mère et mes frères ? Ne croyez pas que ce faisant, il rejette la Vierge Marie et puis sa famille dont il voudrait plus entendre parler. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce sont ceux qui écoutent ma parole. C'est-à-dire, celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui est pour moi un frère, une sœur, une mère. Or, c'est nous. C'est vous qui êtes venus vous mettre à l'écoute de la parole divine et ici dans l'Évangile, qui êtes venus réaliser la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous devenons vraiment les frères et les sœurs du Christ, des mères, des frères, des pères, pour le Seigneur. La Vierge Marie n'est pas devenue mère du Christ autrement qu'en écoutant la parole divine qui lui a été donnée, en l'acceptant et en la mettant en pratique. Voilà la première bonne nouvelle de ce soir. La communauté de ceux qui suivent le Seigneur sont une seule famille, c'est la famille de ceux qui écoutent Dieu et qui suivent ses commandements. Mais voilà, tous ces gens, sa famille s'inquiète, c'est d'ordre naturel, il ne mange plus, il n'a plus le temps de manger, dit l'Écriture, il n'a plus le temps de se reposer, et en plus, il semble dans de grands tourments puisqu'il est en combat avec tout le monde. Alors ils disent même une chose terrible, je ne sais pas si votre famille dit ça parfois de vous, il a perdu la tête. C'est grave, hein ? C'est-à-dire que, naturellement, il n'arrive pas à le suivre. Eh bien, c'est normal, mes bien chers frères, si vous contemplez la vie du Christ, à un moment ou à un autre, vous devriez vous dire, mais il a perdu la tête. Pourquoi lui qui est Dieu, lui qui est tout-puissant, lui qui est le Seigneur des Seigneurs, lui qui peut tout, pourquoi se laisse-t-il faire? Pourquoi se laisse-t-il prendre aux mains des brigands? Pourquoi se laisse-t-il emporter? Pourquoi semble-t-il accepter l'échec? C'est ça que le Sacré-Cœur nous apprend. Hein, le Sacré-Cœur, c'est l'aboutissement de toute une mission. Le Seigneur est venu pour une seule chose. S'il est venu, s'il est né, c'est pas pour nous faire nous émerveiller d'être un enfant, même si on peut aussi s'émerveiller de le voir comme un enfant. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Le Seigneur est venu pour donner sa vie, pour offrir la seule offrande qui pouvait tous nous racheter, qui pouvait couvrir tous les péchés, qui pouvait être d'un prix incomparable par rapport à toutes nos petitesses, nos manques et nos faiblesses, Dieu lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur est venu, et dans le Sacré-Cœur, nous contemplons l'achèvement, il vient d'être frappé, bafoué, crucifié et encore transpercé. De son cœur ouvert jaillit du sang et de l'eau, c'est sa mission qui se répand, elle est réalisée par sa mort, il sauve l'humanité et dès qu'il est mort, du sang et de l'eau se répandent sur le monde, c'est-à-dire le sang, l'eau de la nouvelle naissance qui va nous laver de tout péché et son sang qui va nous nourrir pour toujours, qui va faire de nous des coopérateurs, des enfants adoptés de Dieu. Parfois sur les crucifix, vous l'avez vu, en dessous du crucifix du Christ, il y a une tête de mort et deux tibias. C'est une représentation parfois. Eh bien, je ne sais pas si vous savez de qui c'est, mais c'est le crâne et les tibias d'Adam. C'est-à-dire le premier homme, c'est-à-dire symboliquement tous les hommes dont les Juifs gardaient la mémoire d'avoir été enterrés au Golgotha. En tout cas, le sang, c'est très beau. Ce sang qui coule, cette eau qui lave, elle coule sur tous les hommes, elle coule sur nous, et elle va nous vivifier, nous revivifier. Il y a en dessous de nous, ici, en dessous de cette chapelle, des morts qui ont été enterrés, dans l'espérance que le sang versé coule sur eux et les vivifie. Voilà la folle espérance des chrétiens, voilà la beauté du Sacré-Cœur qui se laisse livrer, qui se laisse transpercer pour que nous puissions entrer en lui. Et quand vous verrez des gens qui ne sont pas très favorables, qui vous diront « Oh oui, mais enfin le Sacré-Cœur, c'est un petit peu anthropomorphique, c'est un petit peu trop humain, un petit peu trop… » Oui, mais c'est pas de ma faute si le Seigneur a voulu se faire vrai homme. Il aurait pu nous sauver du haut des cieux en disant « Bon, allez, je pardonne. » C'est pas ce qu'il a fait. Hein. Il n'a pas dit « Je pardonne » en fermant les yeux. Il est venu dans l'humanité pour nous laver dans l'humanité, pour nous sauver dans l'humanité. Pourquoi ? Pour que je puisse coopérer, moi aussi, qui ne suis pas un Dieu, mais qui suis un homme. Dans l'humanité, je peux vivre la vie du Christ. J'ai moi-même un cœur, comme lui. Et si vous laissez votre cœur se transpercer, c'est-à-dire s'ouvrir, même si ça fait mal, l'amour est mortifère. L'amour est source de souffrance. Parce que on a peur de perdre ce bien incroyable qu'on a trouvé. Alors si vous vous laissez vraiment ouvrir le cœur, et pas carapassonner pour vous protéger indéfiniment et finir dans un trou tout seul, si vous acceptez de vous laisser ouvrir le cœur comme le Seigneur, vous pourrez y faire entrer les autres. Voilà le sens du Sacré-Cœur, qui laisse venir, entrer en Dieu, ceux qu'il a aimés. Ça fait mal d'ouvrir son cœur, on a peur. Mais il n'y a pas d'autre solution pour aimer vraiment que de laisser l'autre rentrer chez vous. Voilà, ça c'était pour les amis de Jésus, un programme tout à fait extraordinaire. Ils ont fini par le comprendre car ils sont allés jusqu'au pied de la croix. Ceux qui disaient qu'il avait perdu la tête, ils ont compris le sens de sa mission. C'est un peu fou de donner sa vie pour ceux qu'on aime, c'est un peu incroyable, mais c'est la mission que le Seigneur a réalisée et nous sommes appelés, nous les chrétiens, à nous identifier à lui et à vivre cette propre vie pour pouvoir éternellement régner. Mais voilà, le Seigneur n'a pas que des amis, il a aussi des ennemis, mais bien chers frères, et ici il est très clair que les scribes sont perturbés de le voir agir et réussir, être suivi. Alors ils vont l'accuser d'un péché tout simplement, Ils vont dire, oui, mais c'est par Belzéboul qu'il expulse les démons, c'est-à-dire c'est par le mal lui-même qu'il fait fuir le mal. Le Seigneur, non sans humour, va leur répondre calmement en disant, bon, est-ce que vous croyez que le mal divisé contre lui-même va tenir? Eh bien non, c'est déjà une prophétie, le mal ne pourra pas tenir, le mal est une division, le mal est une séparation, et voilà pourquoi le mal va s'écrouler complètement. Il est d'un instant le pouvoir du diable, il est une illusion qui s'appuie sur notre propre faiblesse et nos péchés. Le Saint-Père, mercredi dernier, a rappelé dans son audience, comme c'est souvent le cas, que nous nous battons contre des forces spirituelles. Bien sûr, nous essayons d'établir le bien matériellement, et c'est déjà une première chose naturelle. Il faut nourrir vos enfants, il faut les éduquer, il faut aider ceux qui peuvent être aidés, les vêtir, les nourrir. Voilà, nous faisons des choses matérielles et c'est bon. Mais notre combat supérieur, il est contre le mal, hein. Il est spirituel. Et le Saint-Père, avec sa simplicité habituelle, vient de rappeler, mais c'est pas la peine de trop réfléchir, hein. Il n'y a qu'à ouvrir les journaux, dit-il, pour voir que le diable est à l'œuvre partout. Et si vous êtes honnête, mes bien chers frères, parfois, chez nous aussi, même dans l'Église, même à l'intérieur de nos familles. Alors la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur l'a mis à bas. C'est que le combat est déjà gagné. Vous allez me dire, parfois c'est rude, mais cela va se réaliser. La parabole que nous avons, c'est pas une parabole, c'est l'image que le Seigneur emploie, qui n'est pas facile à comprendre, quand un plus fort s'adresse à un fort, pour piller ses biens, il faut d'abord le ligoter. Alors seulement, il prendra et pillera sa maison. Je vous lis un commentaire d'Hilaire de Poitiers. L'homme qui fut lié quand le Seigneur l'appela Satan, c'est-à-dire par le nom propre de sa méchanceté, c'est le diable. Et une fois Satan vaincu, le Christ a pris ses dépouilles, c'est-à-dire nous-mêmes, qui étions les armes du diable. Cette petite image pour annoncer à celui qui vient de lui dire « Mais c'est peut-être par le diable que tu fais ça ?» pour leur dire que c'est fini, qu'ils ont perdu ceux qui veulent le mal, car le Seigneur nous a libérés. Et depuis lors, la grâce habite dans mon cœur, et c'est ce que vous venez chercher ici, hein, dans la confession et la communion, que Dieu habite dans vos cœurs. Alors, et le pape le rappelle, il faut dire que le diable n'est pas le plus fort. C'est un combat inégal, parce que le diable a déjà perdu. Le mal est déjà vaincu. Bien sûr, péniblement, moi, dans ma vie, parfois, je rame, je rampe, je me bats, et je perds. Mais le diable ne peut pas rentrer à l'intérieur de mon âme. C'est fini. J'ai été baptisé. Vous êtes possédé par Dieu. C'est Dieu qui est votre Père, qui vous engendre. Alors rien ne peut vous atteindre que vous ne le vouliez. Bien sûr, il ne faut pas jouer avec le feu et avec l'ennemi qui est réel. Bien sûr, il ne faut pas pécher parce que cela nous atteint, cela affaiblit ma forteresse intérieure. Mais jamais, le diable qui connaît nos tentations, le diable qui nous voit vivre de l'extérieur, jamais il ne peut pénétrer à l'intérieur de votre âme, qui est l'image de Dieu, car elle lui est à jamais inaccessible. Voilà la bonne nouvelle de ce combat, mais ne vous livrez pas à cette obscurité, car il y a un péché qui ne sera pas pardonné, et ici le Seigneur est particulièrement rude. Il semble très calme, mais... Il est très calme, mais il est très dur. Il a annoncé, vous l'entendez, qu'il y a un péché qui ne sera pas pardonné. Les blasphèmes, les péchés, tout sera pardonné aux enfants des hommes, sauf une chose, le péché contre l'esprit ou le blasphème contre l'esprit. Alors l'Église s'est bien gardée de définir proprement ce qu'était le péché contre l'esprit pour éviter, évidemment, de d'enfermer le jugement du Seigneur, car ça lui appartient. Mais beaucoup de pères de l'Église se sont entendus pour dire que le péché contre l'esprit, le blasphème contre l'esprit, c'est de reconnaître le bien et de le rejeter par le mensonge. C'est-à-dire, je ne vous parle pas de peccadilles et de petits mensonges, hein, même s'il n'y a aucun mensonge qui soit beau, je vous parle de choses essentielles. Quand vous avez vu ce qui est vrai et bon et que vous le rejetez, c'est Dieu lui-même que vous rejetez. Vous le savez, il n'y a qu'une seule chose qu'un prêtre ne peut pas pardonner dans la confession, c'est si vous lui dites que vous ne voulez pas regretter vos péchés. Parfois, c'est difficile de les regretter. Parfois, on doute qu'on les regrette pleinement. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous entriez dans ce chemin de pardon et que vous vouliez au moins regretter vos péchés. Mais si en toute conscience, vous disiez « j'ai péché et c'est tant mieux », eh bien, c'est peut-être le début d'un péché contre l'esprit. Voilà, je voudrais finir en contemplant de nouveau ce Sacré-Cœur pour rester sur une note plus merveilleuse. Marguerite Marie a eu comme révélation du Christ la vision même de ce cœur, toujours brûlant d'amour, de même que le Seigneur est en agonie jusqu'à la fin du monde, car il n'est plus dans le temps, et le temps de sa crucifixion est éternel. Voilà pourquoi je peux célébrer d'ailleurs la messe, que je peux rendre présent ce temps éternel, ici sur l'autel. Alors Marguerite Marie, qui a vu le cœur brûlant du Christ, il s'est révélé à elle et il lui a dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Soyez bouleversés par l'amour que Dieu veut nous porter, nous qui ne sommes rien, mais que le Seigneur vraiment a voulu aimer. Et le cœur que le Seigneur a, qu'il a eu sur terre, un vrai cœur humain, eh bien il est au ciel. Car le Seigneur n'a pas abandonné sa carapace humaine pour redevenir Dieu. Il n'a jamais cessé d'être vrai Dieu et vrai homme. Et dans l'ascension, en remontant au ciel, il est monté avec son cœur brûlant d'amour. C'est comme un homme que le Seigneur m'aime. Non seulement il s'est incarné pour me sauver, mais en plus, je comprends maintenant qu'il s'est incarné pour m'aimer à la hauteur de ce que moi je peux aimer. Rendez grâce à Dieu que vous puissiez vraiment l'aimer, que vous en soyez capable, parce qu'il a encore un cœur brûlant d'amour. Amen.